Radio Libre vous invite à rencontrer Nathalie Duc, artiste conceptuelle extrêmement prolifique. Elle se nourrit de l'anticipation d'une société dystopique qui ressemble de plus en plus à notre réalité. Son but, résister avec intelligence. Dans son arsenal, la création d'armes futuristes pour lesquelles elle dépose la propriété intellectuelle afin d'empêcher le complexe militaro-industriel de les développer dans le monde réel. D'autres projets nous ramènent au rapport de l'art, de l'argent et de soi-même en tant qu'humain. Découvrez cette artiste prometteuse au parcours déjà bien établi dans cette première apparition médiatique qu'elle a bien voulu nous offrir. Bonne écoute.
Vous écoutez Radio Libre.
Bonsoir Nathalie Duc.
Bonjour Charlie.
Comment allez-vous ?
Fort bien, et vous-même ?
Un peu tendu pour cette interview ?
Non, ça va.
Nathalie Duc, la première fois que vous venez sur Radio Libre, qui êtes-vous ?
Alors, je suis une artiste conceptuelle et professeure d'histoire de l'art dans une école de design à Genève. Je développe depuis de nombreuses années un travail artistique qui est d'ordre conceptuel. Pendant des années, j'ai travaillé sur un projet immatériel qui s'appelait Secret de sucre. Il y a eu un autre projet en parallèle qui s'appelait Chlorure de sodium, qui était plutôt un projet collectif et politique. Je peins, je dessine, je crée des pièces sonores. Je suis multimédiale et ce qui m'importe surtout, c'est de créer des systèmes conceptuels à partir desquels je peux faire sortir des œuvres.
Ce qui m'intéresse et ce qui intéresse certainement les auditeurs, vu que c'est la première fois que vous venez, c'est comment tout ça a commencé ? Quel était le point de départ de votre envie de créer ?
Alors, je me trouvais dans une école de multimédia où je ne me sentais pas tout à fait à ma place parce que destinée à devenir publicitaire, ce n'était pas vraiment ce que je voulais faire. J'ai eu très tôt des cours d'histoire de l'art et cela m'a sensibilisé aux questions qui traversent l'histoire de l'art et une période qui m'intéresse plus particulièrement, qui est le XXe siècle. Et un jour où je devais faire un portfolio de mes travaux de graphisme, j'ai complètement chamboulé la donne en créant ma première œuvre qui n'existe plus, qui était un travail d'invention langagière et de cryptage. Et c'est là que j'ai été pour la première fois touchée par l'art. C'était une sensation tout à fait nouvelle et un peu abrasive, mais flamboyante. Et j'ai décidé peu de temps après de consacrer ma vie à l'art en faisant un grand choix, en quittant cette école de multimédia pour faire un voyage et créer Secret de sucre.
Et quelle a été la réaction de votre professeur à l'époque en recevant votre travail ?
Bah, ils étaient habitués à ce que je sois assez subversive et que je ne réponde pas toujours au mandat. Je crois que j'ai eu un 1 et j'ai dû rattraper ça avec d'autres notes. Mais ça en valait clairement la peine, compte tenu que j'ai trouvé ma vocation à ce moment-là.
Donc un grand moment clé, un grand déclencheur. Et depuis, c'est une perpétuelle réflexion mentale à la recherche de concepts. J'ai parcouru un peu vos travaux, hein. on va pas se mentir, on se connaît quand même un peu. J'ai vu des œuvres, j'ai participé aussi à certains de vos projets, dont des projets sonores. Et derrière tout ça, il y a quand même une réflexion sur la société, sur ce qu'elle devrait être ou ce qu'elle risque de devenir et ce qu'on aimerait pas trop qu'elle devienne. Est-ce que vous pouvez en toucher un mot ?
Alors, je pense que j'ai une optique assez anticipatrice parce que j'essaie d'étendre des problèmes que je vois dans notre époque sur le futur en permettant par la dystopie, par exemple, ou bien le travail de peinture, de montrer de quoi pourrait être tissé l'avenir si on continue comme ça. Donc, je prends des événements ou des situations, des technologies de notre époque, et je les étends conceptuellement. J'essaie de voir quels sont leurs potentiels dangers ou failles, et je crée des nouvelles technologies conceptuelles au travers d'un projet qui s'appelle 6xWR.T, ou plus communément appelé le projet des armes. Donc au sein de ce projet, je conceptualise des armes du futur. J'ai validé la propriété intellectuelle de ces armes avec une notaire sans passer par des brevets. Et le but de ce projet, c'est donc d'attaquer les États ou les entreprises qui développeraient ces armes dans l'avenir pour interdire ces armes. Donc ce serait même pas pour pouvoir leur soutirer de l'argent, c'est pas du tout le but, mais c'est pour interdire ces armes. Et toutes les armes que j'ai conceptualisées seraient extrêmement néfastes et toxiques pour la société.
Donc c'est un concept de créer des armes pour empêcher les armes d'exister, c'est ça?
C'est un projet, ouais, de créer des choses pour qu'elles n'existent jamais.
D'accord. Ce projet qui concerne les armes est passionnant, hein. Ça devrait être utilisé à plus grande échelle, en fait, pour empêcher des armes néfastes d'être développées. Est-ce que vous avez déjà pris contact avec des associations, des organisations qui militent en faveur du désarmement, ou, je sais pas, en Suisse, on a le mouvement pour une Suisse sans armée. Est-ce que vous avez des contacts là-dedans? Comment est-ce que vous observez aussi l'environnement, le développement de ces armes, de quoi vous vous inspirez pour trouver ces nouvelles technologies?
De lecture, j'ai fait tout un travail, par exemple, sur le transhumanisme. J'ai écrit un article là-dessus. Et toute une exploration par des livres qui m'ont permis d'alimenter mon imaginaire. Et non, je n'ai pas pris contact avec des associations, mais par contre, je vais devoir réagir prochainement avec la question des métaverses, parce que le Kidelioscope, une technologie que j'ai développée en 2015, représente en quelque sorte ce vers quoi vont les métaverses, et je vais devoir faire une réponse à Meta par rapport à ce projet des armes.
D'accord, donc ça fait déjà de nombreuses années que vous êtes aux aguets par rapport à ces dérives-là. Et maintenant, dans l'avenir, vous avez d'autres projets aussi, hein, aussi par rapport à la valeur de l'art, hein, aussi dans votre propre domaine. Il y avait un projet qui concernait le sucre et le sel, peut-être vous pouvez en parler aussi.
Alors, secret de sucre et chlorure de sodium sont deux projets différents, mais qui fonctionnent ensemble. Je dis qu'elles sont des plateformes imaginales d'action, parce qu'elles peuvent, c'est des plateformes qui permettent de réunir plusieurs personnes, donc c'est des projets collectifs. Et qui fonctionne déjà à l'interne différemment. Donc j'essaye par le biais de ces projets d'expérimenter des modalités micropolitiques différentes. Donc ça, c'est une partie du projet, tel qu'il a été fait en son époque. Et Secret de Sucre est un projet qui vise à intervenir dans les contextes du monde de l'art sans permission et sans dégrader des œuvres d'art sur lesquelles il y a une intervention. Donc ça peut être de la pose d'objets, des performances en face d'œuvres d'art dans des musées ou dans des galeries. Et tout ça n'est pas documenté, donc il n'y a pas de prise photo ni de prise vidéo ou sonore. Parce que ce que je désire faire, c'est véhiculer par le langage ces interventions. Donc ça prend beaucoup de temps de comprendre Secret de Sucre, parce qu'il faut écouter pendant plusieurs heures et réagir en fonction de ses propres interprétations. Et cela a pour but de créer un art immatériel où l'œuvre se situe dans l'imaginaire de la personne qui reçoit cette intervention Secret de Sucre par le biais de la narration. Et elle va se faire des images mentales qui sont en fait l'œuvre de Secret de Sucre. Et elle change en fonction de chaque récepteur. Et elles lui sont personnelles. Il n'y a que lui qui peut voir ces images imaginales qui le parcourent. Donc l'œuvre se situe là. Et donc en fait, j'essaie de réagir à des grandes questions qui ont cours dans l'histoire de l'art. Par exemple, celle du ready-made ou de l'installation. J'ai tout un projet de subvertir à quelque part la notion de ready-made, qui est un objet dépourvu de sa fonction initiale, désigné par un artiste comme étant une œuvre d'art et validé par une institution comme étant une œuvre d'art. La personne qui a créé ça est Marcel Duchamp. Et ça a été... C'est ce qui a aussi donné lieu ensuite aux installations, qui sont des ensembles d'objets industriels placés ensemble. Et avec Secret de Sucre, on peut interagir, déplacer des objets. On peut poser des objets qui n'ont rien à voir avec l'œuvre devant l'œuvre ou même dans l'œuvre, mais il ne faut pas que ça la dégrade. Ça, c'est un impératif. Et tout cela est contrebalancé au sein de conférences performances qui sont données au sujet d'une intervention donnée. Et donc elle reprend souvent le mécanisme de l'intervention. Il faudrait prendre des exemples, mais si par exemple j'ai développé tel concept dans une intervention Secret de Sucre, ben je vais essayer de reprendre ce concept et de moduler par exemple l'interaction avec le public en fonction du mécanisme que j'ai utilisé, le mécanisme conceptuel antérieur. Et donc c'est un projet qui est mutable, qui se modifie en fonction des années aussi, parce que les gens vont me faire des retours d'interventions qui se sont passées il y a des années en arrière et elles vont se modifier par la rumeur. Et cela m'intéresse beaucoup de voir comment un récit peut évoluer de bouche à oreille en téléphone arabe. Et on m'a par exemple demandé si c'était vrai que j'avais repeint toute une galerie en bleu à la sauvage, alors qu'à la base, oui, effectivement, il y avait du bleu, et oui, effectivement, il y avait une galerie, mais c'était pas du tout ça qui s'est passé. Donc c'est intéressant de voir comment les récits évoluent.
Les légendes urbaines du milieu artistique dans lequel vous êtes encore active aussi en tant qu'enseignante,
mm-hmm.
C'est juste ?
Oui, je suis professeure d'histoire de l'art à IPAC Design à Genève.
Et comment se passe l'interaction avec cette jeune génération ?
Alors, les classes varient, mais en tout cas, celle que j'ai cette année est très réactive. Et on me remercie beaucoup généralement pour la liberté qu'il y a dans mes cours de prendre position. J'essaie vraiment de faire en sorte d'aiguiser leur esprit critique et de leur laisser un maximum de liberté créatrice pour qu'ils apprennent à faire justement, ils apprennent à définir leurs propres règles, envahir leur imaginaire de tout ce qui peut s'y trouver de plus riche et, ou de plus sombre aussi parfois.
Et c'est ce qui leur permet de développer justement leur propre créativité dans leur propre cadre, si on veut.
En général, à la fin des deux années avec moi, ils arrivent à créer un concept artistique sur un sujet de société et le présenter devant la classe de manière fluide.
Excellent.
Et ils ont des connaissances en histoire de l'art du XXe siècle, principalement les avant-gardes historiques.
Magnifique. On voulait revenir peut-être brièvement pour donner un exemple d'arme que vous avez développée.
Alors pour cela, il y en a 12 pour l'instant. Par exemple, le Mad Mosquito, qui est un moustique technologique. S'il vous pique, il vous plonge instantanément en psychose. C'est pour faire taire les lanceurs d'alerte et les envoyer à l'hôpital psychiatrique avant qu'ils puissent être crédibles et parler. Il y a aussi le kit d'hélioscope, duquel j'ai tiré une nouvelle qui m'a valu avec un mémoire et une performance un diplôme à la Haute École d'Art et de Design de Genève, ainsi qu'un prix.
Dont on va passer quelques extraits à la fin de notre interview.
Oui, et donc le kit d'hélioscope, c'est un ensemble de technologies, donc notamment des lentilles qui permettent de voir dans une réalité augmentée, des chaussons pour doigts qui permettent de manipuler la matière virtuelle, des micros autour de la bouche sous forme de piercing, des oreillettes, et tout ça plonge dans un réseau social du futur dans lequel les gens ont des avatars, et justement ça se rapproche d'une extension des métaverses. Et j'ai repris cette technologie au sein de mon travail actuel, qui est une pièce sonore qui va durer environ 2 heures de temps, qui est toute une autre histoire, une fiction qui se déroule après une crise, 200 ans après une crise, qui est très tabou dans la société dont on parle. Et le monde a été reconstruit par des milliardaires sous forme de secteurs. Les secteurs sont des grands bâtiments en surpilotis. Et tout autour de ces secteurs, il y a du plastique, des déchets, des insectes, beaucoup d'insectes. Et donc l'histoire se passe au travers d'un niveau du secteur qui est tout en bas, donc le secteur subalterne, dans lequel se trouvent les gens qui n'ont pas de travail et qui courent après les scores, après les statistiques, pour pouvoir enfin être embauchés et accéder au monde d'en haut. Et l'histoire se passe au travers du prisme d'un couple, Reik et Isgard. Et Reik donne à Isgard un magnétophone, une technologie du passé, pour qu'elle fasse un témoignage de leur époque décadente et qu'il ne fasse pas partie du kit d'hélioscope, qui est le système de la gouvernance des secteurs. Et donc c'est pour ça que c'est une pièce sonore, parce qu'on entend le contenu des magnétophones. Donc ça en fait une sorte d'artefact du passé, d'un futur qui n'existera jamais. Donc cette pièce sonore sera publiée sur mon site, mais j'aimerais également, au sein d'une exposition, la passer dans l'exposition et en sortir toute une série de peintures, de dessins, de sculptures qui illustrent à quelque part le propos et qui peut être pour le visiteur comme un monde dans lequel on entre et qu'on découvre petit à petit, mais il faut vouloir être motivé à passer 2 heures dans la galerie ou dans l'espace d'exposition pour comprendre l'entier de l'œuvre.
Et là, je pense que vos atmosphères, vos ambiances, vos univers sont assez prenants pour que le visiteur soit captivé. Donc ça, c'est un horizon que vous placez mi-2023 ou
Je me donne une année et demie pour faire le tout.
D'accord. Donc beaucoup de travail. Est-ce que vous avez aussi de l'aide externe ou des appuis ?
Oui, donc autant pour le contenu de l'histoire de ma pièce sonore, je fais lire à des personnes qui me conseillent, qui me donne parfois même des idées. Mais sinon, pour la pièce sonore elle-même, il y a quelqu'un qui va m'aider pour faire le montage et quelqu'un qui va faire des créations musicales. Donc ça va être un gros challenge pour lui parce qu'il va devoir créer la musique du futur et ça doit ressembler à rien de ce qui se fait. Mais lui-même est un grand créateur, Martin von Lonten, un grand musicien.
Magnifique. Un message à nos auditeurs avant de se quitter et puis d'écouter votre composition sonore.
Je dirais que si je devais donner un conseil de vie, ce serait d'écouter ce qu'on a vraiment envie de faire plutôt que de choisir la voie de l'argent. Parce que quand on choisit la voie de la passion, bah, l'argent il vient. Il vient pas, mais il vient. Il vient pas, mais il vient. Mais il vient toujours. Et moi, j'ai fait un grand choix dans ma vie quand j'ai quitté cette école de multimédia. Si je l'avais pas fait pour l'art et la création et la recherche, je serais bien triste et je serais qu'une simple publicitaire.
Merci beaucoup. Hein, ce message qu'on peut acheter le bonheur, mais pas la joie. Donc, une belle poursuite. On se réjouit de découvrir vos créations plus tard et aussi dans un site internet qui va bientôt être publié et puis dont on fera la publicité sur Radio Libre très volontiers.
Merci beaucoup, Charlie.
Merci, Nathalie.